Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue sur la chaîne Famille Épanouie, je suis Amélie Cosneau et mon sujet c'est la parentalité. Vous aider grâce à des astuces faciles et concrètement mises en place, vous aider à améliorer les relations avec vos enfants. Et puis j'ai envie de dire aussi au-delà avec vous-même, parce que l'idée c'est de toujours pouvoir se simplifier l'existence. Moi je trouve que le quotidien, d'une manière générale, il peut parfois être assez compliqué, dans le sens où il faut gérer les relations interpersonnelles, parfois même des choses qui ne nous concernent même pas de prime abord, c'est-à-dire même pas directement. Et il faut gérer avec tout ça, il faut broder toutes ces choses-là ensemble pour faire quelque chose d'homogène. Et c'est vrai que plus on simplifie le quotidien, les choses, la façon dont on prend les choses, et plus c'est facile. Moi, je dis souvent que j'essaye d'être le plus déperlante possible. C'est-à-dire que j'imagine vraiment un imperméable. On peut imaginer le bon vieil imperméable jaune de Bretagne, là. Et voilà, j'essaye d'être un imperméable qui ne fait pas rentrer l'eau, qui ne va pas me mouiller à l'intérieur. Et ça passe par beaucoup de lâcher prise. Ça passe aussi par le fait qu'on va mettre de côté son ego et qu'on ne va pas prendre les choses personnellement, en tout cas le moins possible. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis très attachée aux accords Toltec, que pour moi ce sont des principes de vie que j'essaye au maximum d'appliquer dans ma vie, non pas sans mal, je peux vous rassurer, c'est pas toujours évident, mais ces quatre principes-là, je les ai vraiment tout le temps au cœur de ma vie et donc ne pas prendre les choses personnellement, c'est quelque chose auquel je m'attache énormément et ça amène d'ailleurs beaucoup de simplicité dans ma vie. Voilà, c'était un petit peu en guise d'intro que je voulais vous dire ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, plus on se complique la vie, plus on a des choses qui sont compliquées qui nous arrivent, plus on risque d'y passer du temps. Et tout ce temps que l'on va passer à ressasser, à ruminer, c'est du temps qui va nous être ôté par rapport au temps que l'on pourrait avoir avec nos enfants, dans le sens où on ne va pas pouvoir être pleinement avec eux, on ne va pas pouvoir se connecter vraiment, sincèrement, entièrement à eux. Et donc eux, ils vont le ressentir et ils ne vont pas réussir à capter ce dont ils ont besoin pour pouvoir passer à autre chose. Un enfant qui ressent que sa maman ou son papa n'est pas pleinement avec lui, il va venir solliciter, il va venir parler de plus en plus fort, il va venir en permanence chercher l'attention. Sauf qu'un enfant, il n'attire pas l'attention par une phrase bien construite. En général, il va crier, il va courir, il va se faire mal, il va pleurer. Tout ça, en fait, ce sont des signaux qui montrent que notre enfant a besoin de nous et que peut-être c'est le moment d'arrêter, de ressasser, de ruminer, de repenser à des choses qui ne font que nous envenimer. Donc voilà pourquoi je fais ce petit préambule, parce que le vrai sujet aujourd'hui de ce podcast, c'est de vous parler de deux choses qui sont extrêmement importantes pour moi, deux sentiments, deux valeurs que je m'efforce de construire au quotidien parce qu'elles apportent énormément de valeur ajoutée dans nos vies. Ces deux valeurs, c'est le courage et la bienveillance. Alors, pourquoi le courage et la bienveillance? Tout simplement parce que je commençais par la bienveillance, ça va être plus facile pour moi. Et je terminerai par le courage. La bienveillance, c'est apporter un regard neutre. Pour moi en tout cas, sur des choses qui peuvent se dérouler. Ça veut dire ne pas prendre parti, rester neutre et essayer de comprendre l'autre. Pour moi en tout cas, c'est ça, ma lecture et mon interprétation de la bienveillance. Ça ne veut que dire ça, c'est-à-dire que ça ne veut absolument pas dire accepter les choses. Mais de prime abord, je pense que c'est important d'avoir un regard neutre. Et pour avoir un regard neutre, très souvent, le travail qui est associé à ça, c'est de laisser de côté son ego. Par exemple, quand notre enfant, il nous tient tête et même qu'il nous réponde, ou peut-être même dans des cas encore plus limite nous frapper, ce n'est pas de se brusquer, de se sentir fragilisé, de se sentir touché, mais au contraire, c'est de garder une posture pour comprendre pourquoi l'autre a fait ça, et ensuite de poser la limite. Très souvent, quand les enfants ont des comportements débordants envers nous, en tout cas qu'on va juger, assimiler comme débordants, c'est que bien souvent, on a laissé quelque chose s'installer, quelque chose dont on n'avait pas forcément conscience, quelque chose qui nous a échappé. Mais en tout cas, ça va venir créer de la tension, de la confusion chez l'enfant qui va nous le faire ressentir de la seule et unique manière qu'il connaisse pour pouvoir s'exprimer. Donc, dans ce sens-là, c'est important de ne pas prendre les choses personnellement, d'être le plus déperlante possible et de comprendre le besoin non assouvi de l'enfant pour essayer, dans la responsabilité qu'on a, de faire en sorte qu'il ne se reproduise pas, ou en tout cas qu'il se reproduise le moins possible, et ensuite de pouvoir poser une limite par rapport à ça. S'il y a souvent des choses, enfin, je dis s'il y a des choses qui se répètent, mais non, en réalité, ce sont souvent les mêmes choses qui se répètent. Et donc, c'est important de pouvoir les identifier pour soit les diminuer, soit même voir parfois les supprimer. Donc voilà, la bienveillance, c'est important parce qu'il va y avoir cette douceur dans l'acceptation des choses. C'est aussi ne pas monter au créneau, c'est ne pas s'énerver pour rien, c'est essayer de calmer l'émotion, la vague parfois de colère qui peut nous envahir. Vous savez, moi des fois quand on me dit des choses, je vais avoir tendance à... Enfin, des choses pas agréables ou des choses que je trouve injustes ou des choses qui vont m'énerver ou tout simplement des choses aussi qu'on va me dire pour me blesser. J'ai comme une grande vague de chaleur qui monte en moi. Et dans ces moments-là, quand ça arrive, je la reconnais. Je me sens énervée. Et je me le dis intérieurement. Je dis, oula, je suis très énervée là. Mais c'est pas parce que je suis énervée à l'intérieur que ça doit se voir à l'extérieur. Dans le sens où, si je veux réussir à calmer la situation, ou même j'ai envie de dire de manière plus pragmatique, me calmer moi, j'ai besoin de reconnaître cette vague, mais de faire en sorte qu'elle ne s'exprime pas entièrement. Parce que très souvent, la colère qui se transforme en violence, et c'est souvent ça, en fait, le problème, le vrai problème de ces moments-là, c'est qu'on ressent de la colère, mais comme on se sent touché, comme on se sent atteinte, notre colère va se transformer en violence. Dans le sens où on ne va plus chercher à se protéger, mais on va chercher à attaquer l'autre. Et en fait, l'autre, ça peut parfois être notre enfant. C'est pour ça que c'est compliqué. À la limite, quand c'est un autre adulte, voilà, il prendra sa part, il le recevra comme il peut. Mais le problème, c'est que quand on s'attaque à notre enfant, parce qu'on estime avoir été soi-même attaqué, c'est là en fait où les choses peuvent devenir compliquées. Et donc la bienveillance envers soi-même, envers son enfant, c'est de reconnaître cette vague de colère qui arrive, qui monte, qui nous envahit. C'est pas la renier, c'est vraiment la reconnaître et se dire je suis en colère, je me sens très en colère et agir en fonction de cela. Alors il y a plusieurs façons d'agir, hein. Moi parfois la meilleure chose que je trouve à faire dans ces moments-là, c'est de ne rien faire. C'est d'avoir la lucidité et la compréhension de moi pour me dire en fait je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas comment réagir. Donc le mieux que je peux faire, c'est rien. Et donc il ne se passe rien. J'accueille ce que l'autre me fait, j'accueille ce que je ressens, mais je ne fais rien parce que je ne sais pas précisément quoi faire à ce moment-là. Et donc, ensuite, je réfléchis, je prends du temps pour me dire, ok, quelle a été la limite dépassée, pourquoi est-ce que je me suis sentie comme ça, qu'est-ce que ça m'a fait, et surtout, qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne se reproduise pas. Et là, en fait, du coup, je suis beaucoup plus calme, donc ma colère ne risque plus de se transformer en violence. Et c'est à ce moment-là que du coup je vais interpeller mon enfant ou n'importe qui peut éventuellement m'avoir touché pour en parler avec lui et lui dire, écoute, voilà, ça, ça me met énormément en colère, je ne veux pas que ça se reproduise. Et donc, à ce moment-là, ça dépend avec l'âge de l'enfant, par exemple, mais avec un enfant qui a un préadolescent, par exemple, on peut très bien entamer un dialogue dans le sens, quel est ton besoin, de quoi est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour que ça ne se passe pas comme ça la prochaine fois. Et moi, en retour, voilà de quoi j'ai besoin, quelles sont mes attentes, enfin, en tout cas, voilà, oui, quelles sont mes attentes, quelles sont mes requêtes par rapport à ça. Et de cette manière-là, l'idée, c'est de trouver un terrain d'entente. Avec un enfant plus petit, lui demander quel est son besoin, ça va être un peu compliqué, il va pas forcément savoir l'exprimer. Par contre, nous, on est capable de poser des limites à un enfant. Et un enfant plus petit, donc il va pas y avoir forcément ce dialogue, ça va plus être un monologue, hein. Je parle d'enfants qui ont moins de 7-8 ans. Et là, en fait, leur expliquer, leur donner du contexte, pourquoi est-ce que c'est pas possible, pourquoi est-ce que c'est pas recevable pour nous, qu'il ait un tel comportement, et quelles sont les limites que l'on va poser pour que cela ne se reproduise pas. Ça, c'est, pour moi, c'est ça la bienveillance, c'est pouvoir garder le contrôle de ses émotions, ne pas faire en sorte qu'elles explosent comme un feu d'artifice. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas artificier, donc quand tu lances des pétards un peu n'importe comment, ça peut faire des dégâts. Donc l'idée, c'est plutôt que de lancer des pétards à la volée, comprendre qu'il y a quelque chose de compliqué qui se passe en nous, le reconnaître et réfléchir à froid sur comment est-ce que je peux éviter que cela se reproduise. Voilà, ça c'est vraiment ma lecture de la bienveillance et je peux vous garantir qu'au quotidien, elle s'accompagne de beaucoup de fermeté parce que quand j'ai dépassé mon émotion de colère et que je n'ai plus peur qu'elle se transforme en violence, et que je suis là à soit poser les limites avec mon enfant, soit ouvrir un dialogue avec lui, hein, selon l'âge, vous l'avez bien compris, ben je suis très ferme, dans le sens où je n'ai plus peur de mon propre débordement. Et donc si je n'ai plus peur de mon propre débordement, c'est que je suis en maîtrise de la situation, et que pour le coup, je sais là où je veux aller, je sais là où je veux emmener mon enfant, et je sais que ça va se passer dans le calme. Et mon enfant sera beaucoup plus à l'écoute, si je suis dans le calme, que si je suis en train de hurler et de lancer mes fusées à la volée. Et peut-être que malheureusement, il y en a une qui peut lui arriver droit au cœur. Donc vraiment, garder des... Moi, je sais que je fonctionne énormément par image. J'aime beaucoup les métaphores. Donc ça m'aide énormément dans ces moments-là de visualiser par des images ce qui se passe. Je sais que si vous m'écoutez depuis longtemps, vous savez à quel point j'image beaucoup de concepts que je vis, que je traverse, pour m'aider à trouver des solutions, bah pour le coup très pragmatiques et très visuelles. Et du coup, ça me permet de me rattacher à des images dans ces situations-là. Donc ça, je sais que tout le monde n'est pas forcément n'a pas cet aspect visuel. En tout cas, c'est pas forcément une façon d'agir pour tout le monde. Mais en tout cas, trouvez la vôtre. Il existe. Ça peut être par rapport à des sons, par rapport à du toucher, par rapport à des choses qui vont vous permettre de revenir à vous. Peu importe les solutions, elles sont toutes bonnes de toute façon. Moi, je vous partage la mienne parce que c'est comme ça que j'agis depuis des années. Mais voilà, incarner cette bienveillance, pour moi, ça passe par l'écoute de soi, la compréhension de soi et surtout ne jamais agir sous la colère. Parce que la colère, il y a trop de risques. En fait, c'est trop risqué quand on agit sous la colère. C'est trop risqué que ça se transforme en violence. Et ça... honnêtement, c'est même pas facile à maîtriser. Honnêtement, si je suis en colère, je sais même pas si je serais capable de ne pas transformer ma colère en violence. Et le problème, c'est que... Alors, quand je dis en violence, c'est pas en violence physique, hein, mais c'est lancer des pics qui peuvent atteindre, et donc qui peuvent blesser. Et quand c'est un enfant, on est en train de créer des choses négatives en lui, hein, pour son estime de lui, pour sa confiance en lui, pour la confiance qu'il a aussi envers nous, le lien qu'on tisse avec lui. Donc voilà, même si après on peut être désolé et s'excuser, j'ai envie de dire, mieux vaut l'éviter quand même. Parce que c'est toujours plus facile d'éviter quelque chose que de le réparer. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cette valeur de bienveillance et comment je l'interprète. Et j'espère que ça pourra vous aider à aussi l'interpréter de votre côté. La bienveillance est en aucun cas... tout accepter et ne rien dire. Même si là, alors c'est vrai que peut-être que je manque un petit peu d'explication, de contexte, que vous pouvez vous dire, Amélie, si tu dis rien quelque part, tu laisses faire. Non, Parce que peut-être qu'à l'instant T, en effet, je ne dis rien, je manque un petit peu de répartie et de ressources pour riposter de manière ferme et bienveillante, mais je ne laisse pas les choses s'installer puisque j'ai envie de dire que même mon seul focus, c'est de revenir sur la situation avec mon enfant pour pouvoir la dépasser. Même si elle se joue 2 heures plus tard, cette réparation, en tout cas cet acte pacifique qui va nous permettre d'avancer, il se joue quand même. Il se joue et à partir de là, moi, je peux passer à autre chose. Sinon, je suis quand même dans le fait de me dire quelle est la solution que je peux appliquer et la compréhension vraiment du besoin qui a été bafoué. Maintenant, je vais vous parler le courage. Parce que pour moi, c'est vraiment la deuxième valeur à développer. Parce que le courage va nous permettre de dépasser énormément de choses. Vous savez, quand vous n'êtes pas bien à cause encore une fois, hein, de choses que l'on ressasse, parce qu'on n'est souvent pas bien à cause des choses que l'on ressasse, souvent, on les ressasse tout simplement parce qu'il nous manque le courage d'y faire face. Vraiment. Vous pouvez retenir cette phrase? On ressasse parce qu'il nous manque le courage d'y faire face. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé, dans le sens où, quand je suis pas bien, c'est souvent qu'il y a quelque chose que j'ai pas osé dire, parce que j'avais peur de le dire, parce que j'avais peur d'être encore touchée, ou d'être humiliée, ou d'être renvoyée à ma condition, enfin. Oui, on a toujours peur, notre ego a toujours peur de se prendre une balle, donc on essaye de se protéger au maximum. Mais, en dehors de ça, j'ai quand même envie de vous dire que en parentalité, je parle vraiment en parentalité là, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est dans un contexte de parentalité, hein. Il faut savoir faire preuve de courage pour dire ce qu'on a sur le cœur. Et je vais vous donner un exemple assez personnel, et c'est pour ça que j'ai peut-être attendu avant de dire le courage, puisqu'il y en a peut-être qui auront arrêté d'écouter ce podcast avant, et comme ça, voilà, ça ne tombera pas dans les oreilles de tout le monde. Mais il y a quelques mois, je me suis fâchée avec mon papa. Moi, je suis très proche de mes parents, je ne vous dirai pas pourquoi, parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais je me suis fâchée avec mon papa, et en fait, pendant plusieurs mois, j'ai pas été bien. J'étais pas bien, je ressassais. À chaque fois que je voyais une photo sur Instagram d'une maman de mon âge, enfin d'une femme de mon âge avec son papa ou qui parlait de ses parents, etc., enfin de son papa, ça me faisait du mal. Quand je pensais à mon papa, ça me faisait du mal. Quand je parlais avec des amis qui me parlaient de leur papa, ça me faisait du mal. Enfin, j'avais vraiment cette pointe parce que j'ai pas envie de me fâcher avec mes parents et parce que je les aime très fort et qu'en plus, j'aime pas le conflit, je gère très mal le conflit. Bref, il n'y a rien qui allait dans cette situation-là. Mais j'avais peur. J'avais peur de dire à mon père, écoute, excuse-moi pour mes torts. Hein, dans un conflit, on a toujours 100% des torts. Hein. Moi, j'avais 100% de mes torts, mon papa avait 100% de ses torts. Et donc voilà, j'avais peur de revenir vers lui parce que j'avais peur que ça n'aboutisse pas. Et quelque part, j'avais peur de peut-être le perdre définitivement, ou je sais pas, ou qu'il accepte pas, et que je doive me rabaisser, ou enfin, je sais pas. Bref, j'avais peur. J'avais peur. Et donc, j'attendais, mais j'étais vraiment pas bien. Et puis, là, je suis rentrée en France, et je me suis dit, il faut vraiment que j'arrive à parler avec mon papa. C'est important. Et donc, écoutez, là, il n'y a pas de magie, hein. La chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris mon téléphone et que j'ai envoyé un message à mon papa en lui disant, papa, est-ce qu'on peut manger ensemble? Voilà. Et honnêtement, j'ai eu peur parce que je me suis dit, peut-être qu'il va dire non. Et là, je pense que j'aurais été très triste. En fait, ça m'aurait vraiment touchée parce que non seulement d'une, c'est pas facile de faire cet acte de courage, de dire, ok, je prends mon courage à deux mains et je lui dis, ok, est-ce que tu veux manger avec moi? Mais en même temps, je me suis dit que si je ne le faisais pas, je passais aussi à côté de quelque chose, à côté d'une réparation dont j'avais besoin. Donc j'ai appelé mon papa, je lui ai dit, enfin j'ai envoyé un message, je lui ai dit est-ce qu'on peut manger ensemble? Et il m'a dit oui. Et donc, on est allé manger. Et ça m'a permis de parler de notre conflit, de ce qui nous avait embrouillés. Et quand on a eu fini notre repas, en fait, on était réconciliés. On s'est fait un gros câlin, on s'est pris dans les bras. Je lui ai dit je t'aime. Il m'a dit je t'aime. Et on est reparti. Et vraiment, le fait d'en avoir parlé, le fait de se dire même je t'aime, c'est pas même si j'aime très fort mon papa, par exemple à ma maman, je dis je t'aime, je pense tous les jours à ma maman, mais à mon papa un peu moins et un peu plus de pudeur entre nous. Et donc, peut-être aussi un peu plus de retenue. Bref, c'est comme ça, c'est la relation avec mon papa, elle est comme ça, mais on s'aime très fort quand même si on se le dit pas tous les jours. Et du coup, voilà, le fait d'avoir eu le courage de lui dire ça, de lui exprimer ça, d'en parler, de prendre mon courage à deux mains pour reparler des choses qui nous avaient fâchés, et de, voilà, de s'expliquer que chacun, calmement, en sachant qu'à ce moment-là, comme on était plus en colère, on était dans un esprit de bienveillance, puisque notre colère étant éteinte, elle ne risquait pas de se transformer en violence, hein, je reviens sur la valeur de bienveillance. Et donc, on a pu en parler de manière constructive et on a dépassé notre problème. Et donc, quand j'ai eu fini le repas, je me sentais tellement bien, je me sentais tellement mieux. J'avais l'impression d'avoir recousu une énorme partie de moi, de m'être réconciliée, d'avoir réparé, d'avoir ressoudé quelque chose qui fait partie de moi. Donc voilà, par contre, évidemment que bah, pour le faire, j'ai dû mettre de côté mon ego. J'ai envie de dire, mon papa aurait pu le faire aussi, mais peu importe, en fait, il y a un moment, quand quelque chose est important, il faut avoir le courage de le faire, quand quelque chose est important pour soi. Et très clairement, on pourrait même dire que j'ai agi de manière égoïste dans cette réparation, parce que c'est moi qui avais besoin de cette réparation. Et donc, quand quelque chose est important pour vous, je vous invite vraiment à avoir le courage de le faire. Parce que c'est important pour avancer plus sereinement. Le courage, c'est pas facile. Moi, je me suis même acheté un livre sur le courage, que j'ai même pas commencé à lire d'ailleurs, mais que je pense que j'ai laissé à Maurice et que je vais sûrement ouvrir là quand je vais rentrer, parce que j'ai l'impression d'en manquer cruellement. Alors vous me direz, bah non, là, Amélie, c'est cool, t'as fait preuve de courage, c'est cool. Oui, mais j'ai l'impression que c'est encore un petit peu trop difficile, dans le sens où, bah voilà, j'ai attendu pour le faire et finalement, il y avait peut-être, j'aurais pu le faire avant, j'aurais pu prendre mon courage à deux mains avant. Enfin, voilà, si je vous dis ça, c'est parce que des fois, on reste sur des positions, on laisse s'installer des choses par manque de courage. Et voilà, je n'ai qu'une envie, c'est de vous dire, ben, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment et sincèrement, prenez votre courage à deux mains pour changer les choses. Parce que la vie peut être courte, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et puis j'ai envie de dire, la vie vaut la peine d'être vécue sereinement. Et en fait, l'épanouissement, la sérénité, on la vit à partir du moment où on va se délester de toutes ces choses qui peuvent peser lourd en nous, qui viennent chaque jour nous faire ressasser des situations, des discussions, des complications. Enfin, vous voyez, il vaut mieux s'en délester plutôt que de le ressasser. Mais pour s'en délester, bah, il faut avoir le courage de le faire. Et ça va passer par le fait de se dire, allez, bah voilà, je prends mon téléphone et je vais envoyer un message. Voilà. Ça, c'était mon premier pas. Et ensuite, bah, j'ai eu une réponse favorable. Et donc, le deuxième pas, c'était aussi d'aborder les sujets. Parce qu'évidemment, quand on s'est vu, bah, il y a eu un petit moment de flottement dans le sens où on a échangé quelques banalités, quelques petites choses du quotidien, des petites situations qui nous arrivaient. Moi, je lui ai parlé de, voilà, de notre retour en France, etc. Lui aussi m'a parlé de choses qui font partie de la vie, que je pourrais qualifier de très superficielles, mais pas tout à fait parce qu'elles font partie de la vie. Et il y a un moment, j'ai refait preuve de courage, ou en tout cas acte de courage, pour aborder le sujet que j'avais besoin d'aborder, pour faire ma réparation. Donc voilà, et ça, bah, c'est important de prendre son courage à deux mains et d'y aller. Oui, c'est pas facile. J'ai pas forcément de recette magique à vous donner. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est allez-y, créez l'opportunité et parlez de ce dont vous avez besoin de parler. Ça, c'est vraiment super important. Donc voilà pourquoi le courage et la bienveillance sont pour moi des valeurs fondamentales à développer dans son quotidien pour se sentir beaucoup plus sereine, beaucoup plus épanouie. Et encore une fois, pour construire de belles relations avec ses enfants ou avec ses parents. Parce que finalement, dans cette histoire de parentalité, bah moi, je suis quand même la fille de mes parents. Et donc, voilà, on dévie pas trop de notre sujet dans le sens où on est toujours sur des histoires de parentalité. Donc, voilà, j'espère que je vous aurai envoyé des bonnes ondes, hein, des good vibes. J'espère que peut-être j'ai pu mettre un petit élan... en tout cas, une petite graine de courage à l'intérieur de vous. Je ne dis pas que forcément que vous en manquez. Hein. Mais voilà, des fois, on a besoin d'une petite impulsion, d'une petite étincelle pour se dire « Allez, c'est parti !» Et voilà, moi, j'ai un peu fait les choses comme ça. En tout cas, quand j'ai besoin de faire du courage, ouais, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'agis assez instinctivement, dans le sens où je ne vais pas trop mentaliser. Je dis « Ok, allez, là, j'ai rien, j'envoie mon message. C'est parti !» Plus rien ne m'arrête. Et je pense que c'est un peu ça la clé. Pour faire preuve de courage, faut pas trop mentaliser, mais faut surtout passer à l'action, faut surtout le faire. Et voilà. Et après, bah, qui vivra verra. Voilà, bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire, hein, m'envoyer des messages sur Instagram ou commenter ce podcast pour expliquer ce qui vous a apporté à d'autres. C'est le meilleur moyen de le diffuser. Moi, si vous m'envoyez des petits messages sur Instagram de manière complètement anonyme, je peux vous repartager. Comme ça, ça permet de, bah voilà, d'offrir un petit peu du feedback sur ce que le podcast vous apporte. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, d'ici là, bah, n'hésitez pas à parler de moi autour de vous, à parler de ce podcast autour de vous, et puis à venir me suivre, hein, sur Instagram, sur YouTube, où je distille chaque jour ou chaque semaine des pensées positives sur la parentalité et puis tout ce qui va toucher aux femmes et aux mères que nous sommes d'une manière générale. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, bise. Prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants.